Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bernard Cellier. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Cellier, vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage que vous publiez qui s'intitule « La constellation de l'abeille ». Et c'est un manuel d'initiation à l'apiculture. Pour vous, cela semblait nécessaire d'écrire cet ouvrage par rapport à une lacune ou vous aviez aussi envie d'amener un certain regard ?
Je pencherai plutôt pour la deuxième partie de votre propos, parce qu'il existe déjà beaucoup d'ouvrages sur l'apiculture, même d'initiation. Mais comme pour ma part, je fais depuis quelques années des formations en apiculture sur mon rucher, sur lequel Radio Diwa était venu d'ailleurs une année. Donc j'ai recueilli les cours que je donne en un ouvrage un peu plus condensé, en demandant à Gilbert Girard de bien vouloir apporter son talent avec les photos magnifiques qu'il a apportées, et puis aussi quelques graphiques, des dessins techniques.
Ce regard, comment est-il au sujet des abeilles aujourd'hui ?
Disons que cet ouvrage a pour but de mettre le pied à l'étrier des personnes qui sont désireuses de bien vouloir se lancer dans l'apiculture. Et c'est surtout aussi pour expliquer que l'apiculture, il y a quand même quelques règles à respecter qui sont, même si elles sont de base, il faut en tenir compte, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan vétérinaire ou aussi en matière d'élevage, ou aussi simplement que ce soit pour l'exposition ou le déclarer en mairie ou par rapport au voisinage ou la façon de se comporter par rapport aux abeilles, tout simplement.
Je recevais récemment Olivier de Sébipus affirmer que le miel fut une époque où c'était une denrée quasi ordinaire et que chaque famille possédait sa ruche en quelque sorte.
Avant 1945, la France était un pays agricole, enfin encore bien agricole, et la part de l'agriculture dans l'économie était très importante. Donc, il y avait beaucoup de petites exploitations. Mais après la guerre, comme il y a eu beaucoup de pertes humaines, les exploitations se sont perdues ou ont été rachetées. Et avant, on trouvait des ruches, soit en bois, soit en paille, dans chaque petite exploitation. Et même certaines fermes, quand elles étaient presque en autarcie, pouvaient trouver des glucides, enfin du sucre, grâce au miel, quoi.
Voilà, ça me rappelle Jean-Claude Jarjat qui proposait une démonstration de ruche en paille.
Oui, c'est ça, et qui était de la paille de seigle, parce que c'est un formidable isolant, et le seigle était une céréale très, très courante dans le Haut-Diwa.
Voilà, ça c'est des ruches qu'on peut voir aussi sur des tableaux de Bosch, Hieronymus Bosch.
Oui, c'était exposé aussi à l'exposition sur les champignons, enfin sur la mycologie, avec Jean-Claude Jarjat et Monsieur Rouchouz. Voilà.
Aujourd'hui, comment se porte l'abeille ?
Alors, c'est assez contrasté. Disons que l'apiculture professionnelle, c'est un chiffre qui est assez faible en France. Il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs professionnels qui vivent à 100% de leur métier et de leur passion. Il y en a moins de 2000, je crois que ça a même baissé à 1800. C'est pas un chiffre conséquent pour vivre à 100%, enfin qui est représentatif. Par contre, il y a une augmentation d'apiculteurs qui sont en pluriactivité, qui ont, mettons, 45-50 ruches ou une trentaine de ruches et qui font d'autres métiers à côté, qui vont travailler, je dis un exemple, au col du Rousset l'hiver, ou bien qui vont travailler dans une scierie ou autre chose, et qui ont des ruches et qui leur apportent un revenu de complément. Ça, c'est Une partie, il y a aussi un développement de l'apiculture du côté amateur. Mais disons que le nombre de ruches augmente, mais par contre le nombre d'apiculteurs professionnels a tendance à baisser progressivement. Ça, c'est pour les chiffres. Au niveau des formats de ruches, il y a plusieurs formats de ruches. Je ne me suis pas étendu dans le livre. Disons que dans le recueil, ce que j'expose, c'est surtout la façon de gérer un rucher qui peut être adapté à plusieurs formats de ruches, que ce soit une ruche d'Adam, une ruche Langstroth ou bien une ruche, les ruches les plus courantes. Par contre, pour la ruche varée, c'est une gestion complètement différente. Donc il y a quelques années une fièvre sur le développement de la ruche varée et j'ai l'impression qu'elle est peut-être retombée, mais j'ai pas d'informations statistiques à ce niveau-là.
Vous pourriez préciser ce qu'est la ruche varée?
Varée était un abbé qui s'était aperçu au début du 20e siècle, enfin fin 19e, s'était aperçu que l'abeille... quand elles aimaient bien se retrouver dans des troncs d'arbres. Donc, il a voulu faire une méthode d'apiculture qui s'approche le plus de l'habitat de l'abeille sur un format rétréci 30 par 30 qui correspond à peu près à un gros arbre creux dans lequel les abeilles peuvent se développer. Mais par contre, c'est la disposition des éléments qui diffère par rapport à une ruche d'Adam. Voilà.
L'ouvrage aborde, donc ça se présente comme un manuel d'initiation à l'apiculture. Il y a une chronologie dans cette rédaction qui prend en compte la saison du début à la fin.
Alors, le recueil se base sur deux années. Alors la première année, il y a une présentation de la ruche, l'apiculteur. Je lui explique comment il faut mettre une ruche dans son jardin, l'orientation, les différents éléments de la ruche... Le corps social qui va habiter les cadres, c'est-à-dire l'ouvrière, la reine, le couvain, le fonctionnement, le cycle de développement du couvain, du petit œuf jusqu'à la butineuse. Et ensuite, également la ponte de la reine, ça on l'a dit. Et ensuite, comment faire pour hiverner une colonie. La deuxième année, disons qu'on ne peut pas laisser des ruches non seulement sans soins, mais sans volonté de développement, même si on ne récolte pas de miel, et si on veut garder un cheptel, de façon cohérente. Donc le but est de faire l'élevage, et la deuxième partie aborde l'élevage de façon plus dans le dur du sujet, quoi. Mais avec des méthodes simples.
Le cadre où sont disposés des alvéoles pour constituer les nids, ce sont des choses justement qui sont faites pour motiver les abeilles à développer leur activité.
Alors, le terme de motivation est pertinent. Mais disons que chez une abeille, le climat social, le climat politique est dispensé par la reine. La reine a des phéromones. Et une phéromone, ce n'est pas forcément une odeur, c'est un signal chimique qui appelle un comportement particulier. Donc les phéromones de l'abeille appellent le climat, un climat particulier, qui une attirance des abeilles à ne pas pondre déjà, et aussi à s'occuper des petites larves, des petits œufs qui sont dans les alvéoles que la reine a pondus. Et alors... Ce que j'explique dans le livre, c'est que les ouvrières sont des mères frustrées. Ce sont des femelles qui ne peuvent pas pondre. Donc elles s'occupent en permanence du couvain. Et le couvain est soit ouvert, soit fermé. Il est ouvert quand elles peuvent nourrir. Et quand la nymphe se développe, le couvain est dit fermé et naissant. Alors pour revenir à votre question, il y a plusieurs étages dans un cadre. Le miel qui est dans la partie supérieure, quand on sort un cadre de couvain, il y a un petit un arc de cercle, en gros, c'est très schématique ce que je dis, un arc de cercle où il y a le miel, qui est en principe operculé ou en cours de perculation. En dessous, il y a du pollen, le pain d'abeille qui représente la partie protéinée pour les larves d'abeilles. Et puis, Dessous, il y a le couvain, alors en général ouvert ou fermé, ça dépend. Et les alvéoles, ça une forme un peu d'un gros ballon de rugby. Et la pointe du ballon de rugby, en général, est orientée vers l'entrée de la ruche. Ce qui permet, comme le couvain a aussi des phéromones spécifiques, ça permet, quand on voit les butineuses qui rentrent au plus près du couvain pour le nourrir le plus rapidement possible, ça permet de deviner peut-être éventuellement l'emplacement de la reine, si on veut savoir où elle se trouve, sans avoir forcément, avant d'ouvrir la toiture de la ruche.
Avec toutes ces règles donc, qui s'imposent dans cette ruche, est-ce que malgré tout, entre diverses ruches, on peut distinguer, disons, une personnalité de la reine ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui représente une différence entre chaque ruche ?
Personnalité de la reine, disons que la reine est comme un peu comme les individus, elle a un caractère, des caractères génétiques, pardon, et les principaux caractères génétiques qu'elle dispense dans sa descendance sont, ça peut être l'agressivité en fonction des croisements, ça peut être l'amassage, c'est-à-dire la volonté des abeilles amasser beaucoup plus qu'une autre espèce d'abeille, enfin qu'une autre race d'abeille. Ça peut être la douceur, la tenue sur les cadres, ça peut être ces facteurs-là.
Et ça, vous le distinguez assez rapidement ?
Disons qu'avec l'expérience, on arrive à trouver... on arrive à voir certains de ces caractères avec des résultats sur une année de production d'une ruche, d'une colonie, bien sûr. Mais j'attire votre attention sur le fait que il y a des méthodes pour ouvrir une ruche, ce qui est expliqué dans le recueil, notamment sur l'enfumoir. Il y a une façon d'enfumer les abeilles pour ne pas les agresser, pour ne pas les brûler. Il vaut mieux les refroidir. Enfin, c'est une fumée froide, donc il vaut mieux les refroidir légèrement pour qu'elles réchauffent le couvain plutôt que le voile de la vareuse. Et il y a une méthode justement à tenir dans cette optique.
Cet ouvrage s'adresse à tout passionné qui souhaiterait avoir sa propre ruche ou ses ruches. Il y a des limites d'âge pour s'initier ?
Alors, ça va de... Alors, oui, bien sûr, je pourrais dire que ça va de 7 à 77 ans. Mais non, il n'y a pas vraiment d'âge. Ça s'adresse aux adolescents jusqu'aux personnes qui sont d'un certain âge ou qui sont un peu vêtes à la retraite. Ça, il n'y a pas de limite, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est quand même une certaine curiosité pour appliquer ces grandes lignes.
Et puis, quand on en aime, on ne compte pas, mais ça nécessite quel investissement pour avoir ces ruches ?
C'est un investissement quand même enfin, à la fois important mais assez léger par rapport à ce que pourrait demander une installation en agriculture. Une ruche, on peut trouver des ruches d'occasion sur Internet. Il faut des cadres, il faut quand même de l'outillage, un petit local, ou réserver une partie de son garage à cette exploitation. Disons que de 1 à 5 ruches, ce ne sont pas des sommes énormes. Il faut quand même compter des frais vétérinaires. Disons qu'il y avait... C'est une fourchette, on va dire entre 300 et 500 euros. On peut trouver, il faut trouver des essaims. Un essaim, ça coûte quand même des sous. Un essaim, ça vaut sur le marché en moyenne hein, entre 100 et 150 euros. Donc il y a déjà ça, la ruche, trouver l'emplacement. S'il faut le louer, il faut encore, si c'est du matériel d'occasion, il faut compter à peu près une centaine d'euros. Enfin bon, il faut se mettre à plusieurs pour trouver un extracteur. C'est des chiffres qui s'accumulent. Bon, moi, je dirais de 1 à 5 ruches, à moins de 1000 euros, avec 2-3 copains, on peut arriver déjà à faire des choses intéressantes.
Là, c'est juste une question basique.
C'est une fourchette que je donne.
Oui,
c'est vraiment une fourchette.
En parlant de fourchette, ça produit, une ruche produit combien de quantités de miel ?
Bonne question. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des ruches qui peuvent produire 500 grammes et d'autres qui vont produire 5 kilos, d'autres qui vont produire au maximum 15 kilos entre 13 et 15 kilos sur une hausse, quoi. Alors une hausse, ce sont des demi-cadres, il faut compter 8 à 9 demi-cadres par hausse. 13 kilos, c'est une belle hausse, oui, une belle récolte. Il y a des fois, on peut en mettre deux hausses, ça dépend des années, ça dépend de la flore qui environne bien sûr le rucher. Et la connaissance de la flore est une chose importante.
En parlant de flore, principalement, quelles sont les fleurs que l'on peut trouver dans le Diwa, notamment ?
Beaucoup de thym. Le thym est une plante très intéressante. Il y a du lavandin, beaucoup, parce que la lavande, il n'y en a pratiquement plus. Je parle de lavande fine, quoi, comme il y avait. Beaucoup d'arbres fruitiers, enfin pêchers, cerisiers, abricotiers. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme floraison, en fleur fourragère, et le sainfoin, qui est une fleur extraordinaire, le pissenlit, qui est une fleur magnifique, le chêne aussi. On peut faire du miel de chêne, ça demande beaucoup de vertu et de patience, mais enfin, faut carrément plusieurs hectares pour arriver à faire des kilos de miel de chêne, mais oui, il y a du chêne un peu. Il y a beaucoup de fleurs sauvages aussi.
Comment arrive-t-on, par exemple, à produire un miel dénommé d'acacia ?
Quand vous voyez une floraison qui va arriver bientôt, les petits bourgeons sont en fleurs, et on voit déjà poindre les pétales dans le bourgeon, et on sait que, par exemple, pour l'acacia, ça va arriver la semaine prochaine. On est en milieu de semaine, on sait que prochainement, vite, l'acacia va arriver. À ce moment-là, on met une ruche forte, on la transhume, on la met à proximité de la parcelle d'acacia, on met une hausse par-dessus, avec des demi-cadres, alors ça peut être avec des alvéoles étirées, et une fois que la flore est passée, on enlève la ruche, on peut enlever la hausse, que la hausse par exemple, et on peut laisser les abeilles butiner les fleurs environnantes, mais si vous enlevez après la floraison, vous êtes sûr qu'à 80%, en moyenne, 80%, 90%, vous aurez essentiellement du miel d'acacia que vous aurez récolté sur cette colonie. Et on peut le faire sur chaque espèce florale. Ça peut être sur le lavandin, sur d'autres plantes, bien sûr. En pratique, c'est comme ça qu'on exerce.
Donc la constellation de l'abeille, ce manuel d'initiation à l'apiculture, répond aussi à une sollicitation locale, à se renseigner comment fabriquer son miel ou avoir sa ruche.
Il répond à une demande de beaucoup de copains qui voulaient vraiment comprendre déjà ma passion pour l'apiculture et puis ma volonté d'essayer modestement de sauvegarder l'abeille à mon niveau, mais aussi à beaucoup d'enfants ou même mes petits-enfants qui me demandent des fois simplement comment l'abeille fabrique le miel ou pourquoi on voit des abeilles comme des cyclistes qui montent au col de Rousset avec des grosses sacoches. Alors je leur explique que c'est du pollen qu'elles ramassent sur les pattes arrière. Et qu'est-ce que le pollen, comment il est butiné, comment il est stocké dans la ruche et toute sa fonctionnalité.
L'apiculture est un de vos domaines. Il y en a un autre aussi, ce sont les étoiles. Vous êtes passionné d'étoiles et pour ça, vous êtes toujours partie prenante de ces Nuits des Étoiles.
Alors, la Nuit des Étoiles qui se déroule à Marignac, cette année aura lieu le 9 août. J'ai dit une bêtise. Ça aura lieu le 9 août 2020 à l'aire de loisirs à Marignac. Alors le titre, La constellation de l'abeille, n'est pas par hasard, bien sûr, que j'ai réuni un peu ces deux passions parce que jusqu'à fin 18e, il y avait encore la constellation de l'abeille qui existait dans le ciel, mais les constellations sont des inventions humaines. Ce sont des constructions qui répondent à une image. Et la constellation de l'abeille s'est fondue dans une autre. Donc elle n'existe plus. D'où le titre de ce recueil. Le propos est de dire que si on veut que l'abeille existe encore pour les générations futures, il serait urgent de se mettre à des méthodes d'élevage, même si on ne peut pas ramasser forcément du miel, mais au moins pour développer l'abeille dite « domestique », entre guillemets, pour qu'elle ne subisse pas le même sort que la constellation qui a porté son nom.
C'est de quel fait, cette disparition ?
Alors, la constellation d'abeille a disparu parce que les constellations, les étoiles, les objets en astronomie se déplacent beaucoup. Par exemple, notre planète, la Terre, se déplace, elle tourne sur elle-même à environ 1600 km/h. Elle fait une rotation, elle se déplace à environ 100 000 km/h autour du Soleil. Le système solaire, lui, se déplace à environ, c'est une moyenne, 700 000 km/h dans la Voie lactée. Mais la Voie lactée elle-même, qui est une immense galaxie, une énorme galaxie, parce que le système solaire, c'est quelque chose de tout petit, la galaxie, elle, se déplace à plus de 2 300 000 km/h. Ça fait plus de 600 km/s. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est tenu par les forces de la gravité. Donc, c'est pour ça que la constellation de l'Abeille, comme les étoiles ou les objets célestes se déplacent, c'est pour ça que la constellation de l'Abeille n'existe plus.
Je trouve ça étonnant par rapport à cette disparition. D'autant que si tout bouge dans le même sens, il y a une persistance qui devrait perdurer.
Alors, oui et non, parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Et disons que l'univers, c'est un peu imaginé comme un ballon que les enfants gonflent, un ballon qu'on peut gonfler ou à l'hélium, ou un ballon sonde ou une montgolfière. L'univers est en expansion. En expansion. Donc les galaxies, les constellations, tout le monde qui nous... Enfin, tout l'univers qui nous entoure se déplace à grande vitesse. Mais suivant un temps donné. Mais le plus difficile à dire, c'est de savoir de quoi le temps est le nom.
Question floue, pour moi. Cette passion donc pour les étoiles, ça se retrouvera le 9 août. On pourra y découvrir des ateliers, je suppose, comme les années précédentes, sur des observations.
Alors, il y aura, si on continue sur la fête des étoiles, oui, bien sûr, il y aura une observation du Soleil en direct. En principe, je dis bien en principe, il doit y avoir une lunette dédiée pour observer les perturbations solaires. Également, il y aura un sentier des planètes, qui est une exposition de tableaux qui expose le système solaire depuis la Terre, la Lune, jusqu'à Pluton, sur une échelle relativement courte, pour se donner un ordre d'idée. Avec toute une iconographie, avec des images. Également, le soir, il y aura une conférence et après une observation du ciel qui nous entoure.
Le soleil étant une étoile également, l'abeille se guide d'après le soleil aussi.
Alors, si vous avez été un enfant comme moi, vous avez dû lire les aventures de Tintin. Il y en a une qui s'appelle Les cigares du pharaon, où on voit dessus, enfin dans la bande dessinée, il y a une secte qui, sur des bagues de cigares dont ils faisaient le trafic, avait un petit insigne, c'est-à-dire que c'était un cercle avec un zigzag qui faisait le diamètre qui traversait ce cercle sur cette bague dessinée de cigares, avec deux points opposés. La danse de l'abeille représente à peu près ce mouvement quand elle veut se guider par rapport au soleil. Donc, la danse qu'elle fait l'abeille, ce sont des huit, c'est-à-dire qu'elle va faire des demi-cercles en frétillant et en faisant un cercle et en frétillant, en revenant chaque fois comme si elle faisait un 8, et en coupant le diamètre de ce cercle par des frétillements de son abdomen. L'importance des frétillements donne une estimation de la distance à une centaine de mètres près, le nombre de cercles est, également, et le diamètre par rapport à ce cercle donne le degré d'exposition de la ruche par rapport au soleil. Donc, l'abeille butineuse, ou la future butineuse qui va partir de la ruche pour aller explorer, le plan que lui donne l'abeille éclaireuse qui a trouvé ce trésor, va suivre un cahier des charges assez précis grâce à cette danse. Et à quelques centaines de mètres près, elle ne se trompe pas.
Vous qui vous occupez donc des étoiles et le soleil en étant
je m'occupe pas des étoiles.
Non, mais je veux dire, vous vous intéressez aux étoiles.
Je les observe.
Voilà, vous observez les étoiles, du moins. Vous vous documentez également, je suppose. Et par rapport au soleil, est-ce que les astrophysiciens ont détecté des changements du soleil depuis quelques décennies?
Alors, le soleil, notre soleil est une toute petite étoile, et qui a une durée de vie assez courte en plus, mais qui est assez vive pour nous, parce qu'elle se situe à 150 millions de kilomètres à peu près, mais oui, elle a des périodes de perturbation qui sont assez intenses. Imaginez que vous fassiez de la pâte de coin, vous êtes obligé de la remuer pour faire évaporer l'eau, l'humidité, mais parce que sinon, elle va faire des bulles et comme c'est très chaud, ça va monter avec la pression, ça peut monter au plafond. Si vous répondez au téléphone, le temps que vous laissez tomber votre pâte de coin, et ben une perturbation solaire, c'est exactement ça. Sauf que elle a des conséquences sur le magnétisme de notre Terre parce que nous sommes protégés par un noyau de fer qui produit la magnétosphère, fait des réactions. Qui peuvent être graves, par exemple, pour les réseaux ferrés, sur les satellites, pour les ondes qui transportent les bonnes nouvelles de radio libre. Ouais.
Et là, question peut-être sacrilège, mais est-ce que justement ces perturbations solaires ont-elles une influence aussi sur les ruches?
Alors, je l'ignore. Non, bien sûr que le réchauffement climatique, ça, oui, on sait que ça a une incidence sur la flore, donc sur les ruches, ça d'accord. Que ça a une influence sur les marées, sur la violence climatique, dont on s'aperçoit les effets désastreux. Mais par contre, les ruches sont beaucoup plus sensibles au réseau de Hartmann et au courant magnétique terrestre. Une ruche peut donner beaucoup de miel, une ruche vide peut recevoir un essaim à un point précis qui aura été déterminé par une personne sensible à ce réseau et à ces croisements énergétiques. Et vous mettez une autre ruche à une dizaine de mètres plus éloignée et il y aura peut-être, c'est un exemple, cette ruche sera fréquemment malade ou ne rapportera, les butineuses ne rapporteront que très peu de miel. Mais dans certaines proportions, il faut prudence garder.
Toutes ces choses-là ne sont pas forcément écrites dans l'ouvrage, mais si, vous abordez ces questions.
Si, bien sûr, bien sûr.
Et donc, justement, à propos de ce livre, cela vous a pris combien de temps pour l'écrire, à peu près?
À peu près une année en dilettante. Il y a 105 pages et il y a beaucoup de photos.
Et donc, on peut parler aussi de Gilbert Girard. C'est une personne qui vit dans le Diwa, photographe donc?
Oui, qui est photoreporter et qui est responsable du club d'Aïkido. Donc, il fait énormément de photos et il est passionné des paysages du Diwa qu'il a pris sous de nombreuses coutures en macro-photo. Et il a un équipement qui est assez étonnant, quoi.
Comment s'est agencé ce partenariat?
Disons que pour Gilbert, c'était un défi, parce que c'est quelqu'un qui est très curieux de nature, donc ça correspondait tout à fait au cercle des personnes que je fréquente et qui se posent des questions.
Et puis donc, c'est édité à éditionpollen.bz, c'est vous-même qui éditez.
Voilà, c'est le nom de l'édition que j'ai enregistrée auprès de Electre, qui donne un numéro ISBN pour pouvoir publier et enregistrer auprès de la Bibliothèque nationale de France.
C'est l'unique ouvrage pour l'instant de cette édition?
Alors, pour l'instant, il y en a un autre qui est en préparation, mais qui est pour un public plus jeune, pour expliquer comment les abeilles fabriquent le miel qu'on va étaler sur une tartine. Donc, le but est de répondre à cette question qui appelle des développements considérables. Donc, un livre sur l'apiculture, mais d'une façon beaucoup plus schématique, beaucoup plus simple, avec plus de dessins et de photos. pour expliquer ce résultat appétissant. Ça attire votre attention sur le fait que le miel est digestible à 100%. Il est assimilable à 100% pour l'organisme.
Coulibri, ça c'est un site d'impression, d'ouvrage.
Voilà,
donc,
c'est ça. Qui est à Toulouse et qui fait un travail très intéressant. Alors bien sûr, il faut envoyer un PDF achevé, fini et déterminé avec la première et la quatrième de couverture.
Je reviens aux ruches et aux abeilles. Est-ce que vous avez remarqué donc une augmentation de ruches sur le Diwa? Est-ce que pour cela aussi, est-ce que les apiculteurs amateurs se retrouvent parfois pour échanger des...
Pas assez. À mon avis, on devrait se retrouver plus souvent pour échanger autour d'un verre ou d'un café pour se voir et échanger ce qui se passe dans nos ruchers, quoi. Peut-être au niveau local, de façon tout à fait informelle.
Ne serait-ce que pour mutualiser un extracteur, parfois ?
Oui, ça peut se faire, par exemple, bien sûr, du matériel qui est quand même coûteux et qui, pour répondre à des normes d'hygiène obligatoires, doit être en inox, donc cher. Donc s'il est mutualisé, comme vous avez raison, il peut se partager, tout à fait.
J'avais souvenir de métal galvanisé, moi, dans les extracteurs, quand j'étais enfant. Hein.
Oui, mais ça, c'était dans les années 50, hein. Voilà.
Ouais, 70,
ah bon, d'accord.
Je ne suis pas si vieux. Eh bien, Bernard Cellier, je vous remercie d'être venu nous parler de cet ouvrage que l'on peut trouver notamment à la librairie Mosaïque, à Die,
ou alors sur le site pollen.bz, voilà. Et il y a mon adresse mail, et par retour, je peux vous envoyer l'ouvrage dans une enveloppe protectrice, quoi, sous enveloppe à bulles, quoi, voilà.
Est-ce que vous organisez des ouvertures de vos ruches en public? Est-ce que vous proposez des petites formations ou
bien
des
sûr.
Initiations alors, pendant l'année?
Alors, oui, mais à des dates précises. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une ruche n'importe comment. Et comme on ouvre une porte, ouvrir une ruche, c'est quand même très délicat. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les nourricières ou les ouvrières qui ne sont pas encore butineuses, et qui sont des mères qui restent à domicile, protègent le couvain quand il est fermé, elles le nourrissent quand il est ouvert en produisant de la gelée royale. Et il faut faire très attention parce que justement la température d'une ruche est en moyenne de 30-35 degrés. Donc là aussi il faut prudence garder et on n'ouvre pas une ruche à tout bout de champ et n'importe comment. Donc on le fait 3-4 fois dans l'année, pas plus. Donc la découverte du couvain, c'est une aventure qui se fait à un instant T dans le développement d'une ruche. Alors quand on fait des essaims, c'est vrai qu'on dérange un peu plus une ruche, mais on dérange pas toute la colonie, on n'en enlève qu'une partie.
Dernière question, et en période de canicule, si elles doivent maintenir cette température, comme vous l'indiquez, de 30 oui. à 35 degrés, comment procèdent-elles justement pour rafraîchir?
Elles ventilent. Et il y a des ruches, il y a plusieurs conceptions de ruches, mais il y a des planchers ventilés. Donc ce qui est important, c'est que la toiture de la ruche soit maintenue sur le couvre-cadre, ou en tant que couvre-cadre, ça dépend. On peut mettre un isolant assez épais, qui peut être en polystyrène, en laine de bois, ou en isolant pour toiture, enfin ce qu'on a un peu sous la main, c'est un peu du bricolage. Mais ce qui est important, c'est que le plancher soit ventilé pour assurer une circulation d'air. En plus, les abeilles ventilent énormément, et ce qui est important, c'est de mettre un point d'eau à proximité. Ça peut être alors en général, on met de l'eau un peu salée comme désinfectant, et puis où on peut avoir un cours d'eau s'il est pas à sec, et ça limite les trajets infatigables des porteuses d'eau. Justement, il y a des abeilles qui se destinent à porter de l'eau durant toute leur période de butinage.
Eh bien, Bernard Cellier, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup et longue vie à Radio Diwa.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.